Madame, Monsieur, bonjour et bon samedi. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le Grand Charivari, bien que l'équipe du Grand Charivari ait le cœur triste ce matin. Nous avons appris en effet la semaine dernière le décès d'une grande personnalité du monde de l'art. Il était historien de l'art et curateur d'exposition. Yann Hout nous a quittés. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons en première partie d'émission de réentendre l'intégralité de l'entretien qu'il nous avait accordé. C'était un petit peu avant Noël et ce, à l'occasion de l'exposition qu'il avait dirigé à Kiel, dans sa ville natale, sur le thème de l'art du mythe et de la folie. Pour la dernière fois donc, voici la voix de Yann Hout. Nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Le Grand Charivari, Pascal Seyss.
Madame, Monsieur, bonjour. Ce sont les outsiders, les pirates de l'art que nous célébrons pour cette dernière émission de l'année. La marge qui révèle la norme, la maladie qui dit tout de la santé, la souffrance qui nous parle du bonheur. Les mythes, l'art, la folie sont au centre d'une exposition qui a lieu en Flandre, à Kiel, en Campine. Une combinaison passionnante que nous devons à Yann Hout, qui est le commissaire de cette exposition et qui est notre invité ce matin jusqu'à 11h. Bonjour Yann Hout.
Bonjour,
merci beaucoup d'être parmi nous. L'art contemporain doit beaucoup à votre jugement. C'est à vous que l'on doit la création et la direction du SMAC, le musée d'art actuel de Gand. Vous êtes commissaire, c'est-à-dire concepteur de plusieurs expositions qui sont devenues mythiques, comme en 1986 par exemple Chambre d'amis, dont l'idée a été abondamment reprise en différents lieux du monde. C'est en retour à vos sources que cette dernière exposition en cours, sous le titre Middlegate Kiel. Vous avez en effet grandi à Kiel, une ville de Campine qui tient lieu de décor en quatre lieux emblématiques de la ville, à plus de 200 œuvres. Elles sont à découvrir encore jusqu'au 19 janvier. Nous en parlons avec vous. Nous allons aussi découvrir votre univers musical. Paul Hermant viendra vous dire un petit bonjour, non sans vous poser d'abord les trois questions rituelles, Yann Hout, de cette émission. Alors, 1, 2, 3, c'est parti. Quel est le grand charivari de votre vie?
Je crois que c'est... J'ai voulu avoir un musée et je l'ai fondé aussi, le musée d'art contemporain de Gand. Et j'ai toujours voulu que le musée sera le lieu où on peut discuter, débattre avec les gens sur l'art. Qu'est-ce que c'est l'art? C'est comme un peu un alternatif pour ce qu'on a considéré comme étant l'Église. Vous comprenez? Donc l'Église, c'est aussi un lieu où on sort du monde, au fond. Et le musée, c'est un peu comme l'église, où on débatte sur l'art. C'est pas sur la religion, mais sur l'art. Et je crois que l'art, c'est une charnière pour discuter sur beaucoup de choses. Parce que il n'y a pas seulement l'artiste, il n'y a pas seulement l'œuvre d'art, mais il y a aussi l'artiste qui est derrière son œuvre. Et toujours, c'est le paradoxe, si l'artiste fait quelque chose pour lui-même ou est-ce que l'artiste fait quelque chose pour nous. Et c'est ce débat-là que je veux donner une expansion au musée pour débattre sur ce problème. Donc, est-ce que l'artiste travaille pour lui-même ou est-ce qu'il travaille pour la société? Et pour donner un message, quoi. Et je crois qu'à partir de l'œuvre d'art, on peut vraiment discuter sur ces deux points. Parce qu'il y a un côté autobiographique chez l'artiste. Les grands artistes ont toujours derrière eux une réflexion sur leur identité. Et puis, il y a la société qu'ils voient d'une autre façon. Et le plus intéressant, c'est de pouvoir rentrer dans la peau de l'artiste. Ça, c'est le plus intéressant. Et on voit comme ça, par exemple, une œuvre d'art est toujours locale, mais elle fait un appel à l'universel, à l'univers. Et c'est ça l'engagement de l'artiste pour arriver à cet appel-là. Et ça n'est pas toujours facile, naturellement. Mais par exemple, un Andy Warhol, sans son... sa mémoire sur le lieu où elle est née, en Tchécoslovaquie. Et là, la tradition des icônes avec lui. Et il va en Amérique. Et là, il rencontre un autre monde. Le monde du diva, le monde de la consommation. Et il combine la tradition des icônes avec le nouveau monde d'aujourd'hui, de la consommation. Et puis il dit, il faut sauver ce monde de la consommation et il faut en faire des icônes. Et il fait une icône d'une bouteille de Coca-Cola, Camel Soup, Marilyn Monroe. Il fait des icônes, au fond. De Jacqueline Kennedy, par exemple. En plus, elle est en deuil, donc, avec une voile. Et cette voile rappelle vraiment le profil de Madonna dans les icônes. Vous comprenez? Donc, c'est incroyablement comment il a pu gérer son background avec le nouveau monde dans lequel il rentre. C'est ça, hein? Et c'est ça que je veux faire aussi. J'ai voulu faire à Gand. Alors, j'ai fait Chambre d'amis, par exemple. Chambre d'amis, c'est une référence à mes sources, mes propres sources. J'ai été éduqué à Guil jusqu'à j'avais 11 ans. Et j'ai vu que les patients psychiatriques logeaient dans les familles privées. Donc, pas dans un asile, mais dans les familles. Et les familles sont prêtes à les accueillir. Hein. Donc, c'est une tradition aussi qui date du XIIIe siècle, à Guil. Donc, c'est normal, tout à fait normal à Guil qu'on fait ça. Et toutes les familles, je crois, que j'ai connues, ils avaient des patients psychiatriques chez eux. Donc, je fais chambre d'amis, je fais une exposition dans les maisons privées, et j'invite des artistes et je les mets là-dedans, dans les maisons privées. Et ils travaillent. Ils considèrent ces maisons privées comme leur atelier. Et ils créent une œuvre, hein, en fonction du contexte. Par exemple, Joseph Kossuth. Il a tapissé tous les murs de la maison d'un psychiatre avec un texte de Sigmund Freud. Vous comprenez? Donc, le psychiatre, Sigmund Freud. Et puis, il a barré au milieu du texte en noir. Ce sont des lignes comme ça. C'est vraiment presque un design. Donc, la maison a été designed par l'artiste Kossuth avec un texte de Sigmund Freud. Donc, il vit dans le texte de Sigmund Freud, le psychiatre. Hein? Et donc, il a tenu compte du contexte dans lequel il doit travailler.
Alors, Yann Oud, nous aussi, nous avons un design, une structure et une architecture. Donc, bien sûr, nous allons parler de cette exposition à Guil. Nous avons une deuxième question à vous poser. Qu'est-ce qui, dans l'actualité récente, a retenu votre attention, Yann Oud?
Oui, mais tout le monde, aujourd'hui, est occupé par l'économie. C'est ça le problème, je crois. Et on met trop le focus sur l'économie, je trouve, et trop peu sur la culture. Et je crois qu'on a découvert ce conflit et on a créé European Creativity. Et on voit presque dans toutes les phrases du manifeste européen que l'art inspire l'économie. Incroyable, hein? On ne voit plus séparer, non, c'est en fonction. Je donne un exemple. Par exemple, il y a des subsides européens pour l'art, par exemple, pour l'innovation. Ce ne sont pas les designers qui ont reçu l'argent. C'est le multinational Philips qui a reçu l'argent. Donc, tout a changé dans le monde aujourd'hui. On a vu que l'art pourrait être une source, hein, et pourrait servir l'économie et les industries. Je me demande vraiment où est-ce que se trouve l'art encore dans le manifeste européen. Je crois que l'art est exclu maintenant. C'est seulement l'artiste doit changer son art. Il doit s'occuper comment on peut servir l'économie. Et ça c'est très dangereux, je trouve. Très, très dangereux, oui.
Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin ?
De me lever ?
Oui.
Ah, toujours à la recherche, hein. Toujours, hein. Chaque jour, j'ai envie de lire un livre sur l'art, de visiter un atelier d'un artiste ou de regarder une exposition. C'est chaque jour. Hein, c'est ma vie, quoi. Parce que ça me donne de l'énergie. Et ça, j'ai vécu très concrètement quand je visite une exposition. Même quand je n'aime pas cette exposition, ça me donne de l'énergie pour penser, pour refléter, pour faire une réflexion là-dessus et sur ce que c'est l'art. Ça m'occupe chaque jour, ce problème de l'art, parce qu'on ne trouve pas à définir ce que c'est. Et le plus vieux que je suis, le moins que je peux le faire. Et je trouve aussi, c'est bien ça. Parce que l'art dépend des changements dans la vie. Et l'artiste, il contrôle la vie. C'est-à-dire, il fait un jugement sur la vie. Et c'est ce jugement dont j'ai besoin. Je ne veux pas être comme tout le monde. Ce que je trouve aussi aujourd'hui, nous sommes tous éduqués à accepter tout. Et je crois que ça, c'est un danger. Il faut respecter l'autonomie de l'individu. C'est pour ça que la culture et l'art s'adressent vers l'individu. L'économie s'adresse vers la société. Et ce sont deux éléments nécessaires pour avoir une société qui va à travers le domestique, quoi. C'est ça qui nous peut donner de la nourriture pour aller dans l'avenir, quoi.
Vous écoutez Musique 3, c'est Yann Hout qui est notre invité ce matin dans le Grand Charivari. Yann Hout est son premier choix musical. Alors, vous avez reconnu bien sûr cette musique.
Oui. Hein.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
C'est...
Vous avez étudié avec lui.
Ah, Baudouin Bookings.
Mais oui.
Oui, voilà. Baudouin Bookings, c'est ça. Mais je n'ai pas écouté, je dois dire. Je n'ai pas très bien écouté.
C'est avec Paul Kling au violon.
Dans Vous comprenez, je suis dans l'avenir de notre rencontre, vous comprenez. Plutôt, c'est ça. Ah oui, c'est ça.
Alors, il y a
Buchings, c'est un grand compositeur. Hein.
Mille et une sonates.
Oui.
Et alors
les sonates,
c'est la millième.
C'est
la millième, celle-ci.
Millième sonate.
Alors racontez, nous on ne connaît pas Bodenbeckings.
Ah, je connais depuis maintenant, je crois, 30 ans. Et c'est un compositeur actuel, moderne, qui a fait les études d'histoire de l'art avec moi. Et tout d'un coup, il n'était pas d'accord avec les théories des professeurs à Gand sur la musique, l'histoire de la musique. Et puis, il est allé à Louvain. Et là, il a eu son doctorat. Et puis, je suis aussi parrain de sa fille. Hein? Je lui connais depuis des années. Et de plus en plus, il devient être très connu en Belgique. Il est beaucoup plus apprécié qu'à l'époque. À l'époque, il n'y avait que 5 personnes qui aimaient sa musique. Mais quand même, il est classique aussi. Je voudrais l'écouter encore une fois.
Eh bien, nous allons en écouter une autre de ces sonates.
Ah oui, très bien, oui. Je sais très bien comment il travaille. Hein. Et il est un peu un type qui est comme Saint-Jérôme, quoi, qui s'enferme dans sa maison. Hein. Et il est tout seul, alors. Hein. Sa femme est partie, lui est seul avec la musique. Hein. C'est incroyable comment il travaille. Il a commencé avec le clavecin. Mais maintenant, il va plutôt... entre piano et violon, vous comprenez, les deux, oui.
Alors ici, ce que nous venons d'entendre, c'est un bis pour un enterrement.
Ah oui, voilà.
Un bis pour un enterrement.
Ah oui, voilà.
Oui, et alors, le titre de son...
Un bis pour un enterrement.
Oui, et alors, son album, ici, il est écrit, donc c'est un compositeur de mille et un malentendus délicieux qui ressemble au romantisme comme un ordinateur ressemble à une machine à écrire.
Incroyable.
C'est surréaliste.
Oui, surréaliste, oui.
Un peu.
Ah oui.
Jan Hout, l'exposition que vous avez scénographiée à Kiel s'intitule Middlegate Kiel. L'entrée est symbolique et démocratique. 1 euro d'entrée, c'est une véritable porte d'entrée pour tous vers l'art contemporain, sous l'angle que vous avez choisi, qui est l'angle du mythe de la psychiatrie. Alors, quelle a été votre intention ?
Mon intention, c'est de savoir s'il y a des liens et des fluctuations entre l'art et l'outsider kunst, et aussi la mythologie. Je me rappelle que quand j'étais jeune, mon père était psychiatre, mais il était aussi collectionneur. Et il avait déjà des statues africaines dans sa maison. Donc, et ça, c'était déjà quelque chose de très drôle, parce qu'à cette époque-là, nous ne considérons pas l'art africain comme de l'art. Mais de plus en plus, c'est devenu l'art aujourd'hui. Ça, c'est curieux. Donc, d'abord, c'était une source pour l'art occidental. Par exemple, Picasso, le cubisme. Et tout d'un coup, la source devient aussi art. Et moi, j'ai voulu faire la recherche sur la outsider kunst, qui depuis longtemps est déjà une source d'inspiration pour beaucoup d'artistes. Hein, parce que, par exemple, Karl Appel, qui s'inspire sur des dessins d'enfants. Dubuffet, qui s'inspire sur le dessin de patients psychiatriques. Il fait aussi une collection. Il a une collection privée incroyable. Et puis il s'inspire et il crée l'art brut. Donc il dit, ça c'est beaucoup plus vrai que la culture dans laquelle nous sommes enfermés presque. Donc il faut prendre le marginal pour devenir de l'art. Vous comprenez? Et ça j'ai voulu faire aussi à Gale. Hein? Ainsi, il y a des fluctuations. Quand on visite l'exposition, on n'a pas l'impression que c'est une œuvre d'un patient psychiatrique ou d'un vrai artiste professionnel. Ça, on ne sait presque pas. Donc, il faut vraiment faire la recherche. Et c'est ça que j'ai voulu faire.
Yann Hou, tout à l'heure, vous nous parliez de l'art au service de l'économie. Je pense que vous allez apprécier les propos de Paul Hermant, qui est ici, qui a fait son entrée, qui a quelque chose à vous dire. Écoutez bien.
Cher Yann Hout, nous parlions des simples la semaine dernière avec la réalisatrice Yolande Moreau, et voici qu'avec vous, aujourd'hui, ben nous y revenons. Et voilà donc que nous allons reparler de ces failles, de ces fêlures, de ces manquements, de ces frontières indistinctes aussi entre la normalité et l'anormalité. Voyez, rien qu'à prononcer ces mots, on ne sait déjà plus bien où on se situe. Quand j'étais gamin à Charleroi et qu'on voulait menacer les garnements que nous étions pour quelque effronterie que nous avions commise, on nous disait « Vous finirez à Gale » ou « Vous finirez à Dave ». Et c'est ainsi que Gale et Dave ont formé pour moi un couple indissociable, un couple punissant, un couple sévère et pourtant un couple rassurant. Car si l'on méritait Gale ou Dave pour des gamineries, hein, vous savez bien ces petites audaces qu'on se permet à 12 ans, c'est que ces gens de Gale et de Dave ne nous étaient après tout peut-être pas si étrangers ou si éloignés que ça. Peut-être après tout étaient-ce là des cousins, des frères, des semblables. Quelques années plus tard, lorsque je passais quelque temps à visiter des chambres d'amis à Gand et que je mesurais pareillement ce qui, dans cette étrangeté, m'était pourtant si familier, j'ignorais que celui qui faisait entrer l'art contemporain dans les maisons des gens était le fils d'une ville, Gale, qui avait fait rentrer des fous dans les maisons des gens. Et maintenant que vous avez bouclé la boucle, hein, faisant entrer l'art contemporain dans la maison des fous et entrer les fous dans les temples de l'art contemporain, je me dis qu'il me faut absolument saluer ici, hein, puisque vous affirmez que ce sera là votre dernière œuvre, de saluer donc la fidélité à la transgression de quelqu'un qui non seulement finit à Gale, mais qui en plus en provient. Cher Yann Hout, je suis en train de lire un petit livre très roboratif, très enthousiasmant, qui fait pour l'instant mon bonheur et qui, je crois, ferait le vôtre aussi. Cela s'appelle L'utilité de l'inutile. C'est écrit par un Italien, Nuccio Ordine, qui enseigne la littérature à Paris, à Londres, à Yale, à Berlin et en Calabre. Ceci pour vous dire que l'homme connaît particulièrement bien le domaine universitaire et qu'il se désespère qu'aujourd'hui, les étudiants soient devenus des clients en recherche de filières productives et qu'un diplôme ne soit réputé valable que s'il mène au marché de l'emploi ou pire, que le marché du travail crée le diplôme qui lui convient. Les savoirs, dit-il, ne valent plus pour eux-mêmes. Les savoirs n'existent que s'ils sont utiles. Sans ça, c'est simple, on ne veut même plus savoir. Cette critique qu'il adresse à l'université, il la retourne aussi vers ceux qui jugent que la poésie est inutile parce qu'elle ne produit rien, et vers ceux qui pensent que donner un statut aux artistes est un contresens pour des gens qui ont opté pour une vie de patachon, une existence de bâton de chaise, des gens qui sans doute usent de savoir et génèrent parfois même de l'argent. Mais dites-moi alors, l'utilité d'un tableau ou d'une installation en face de celle d'un type qui a inventer les subprimes. Ainsi, doublement dans cette exposition de Gale, donnez-vous la parole aux improductifs, aux superflus, aux inutiles. Aussi, je voudrais en terminer aujourd'hui et pour cette année qui s'achève avec une petite fable que j'ai trouvée dans ce petit livre. C'est l'histoire de deux jeunes poissons qui nagent et croisent en chemin un poisson plus âgé qui leur demande « Alors les garçons, l'eau est bonne ?» Les deux jeunes poissons nagent encore un petit moment et puis l'un demande à l'autre « Tu sais ce que c'est toi, l'eau ?» Voilà, c'est simplement pour dire qu'il est bien difficile décidément de percevoir l'utilité inutile dans laquelle nous vivons et de nous rendre compte que cette utilité inutile nous entoure et nous soutient. Et c'est pourtant, je pense, ce que savent très bien les fous, les improductifs, les superflus et les inutiles. Je vous souhaite le bonjour.
Oui, formidable. Hein, formidable, mais ce serait mieux de lui demander les questions et pas à moi. En tant que flamand,
on invitera un jour, on invitera Paul Hermant un jour, je vous promets.
C'est formidable.
Alors, l'inutile.
C'est une vraie réflexion sur tout le travail que nous faisons. Hein. C'est ça, hein. C'est formidable. Mais parce que l'inutile, c'est quelque chose de formidable. L'utilité de l'inutile. Hein. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est prélogique. Prélogique, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on demande à un enfant qui n'a pas fait l'école, pourquoi le crayon reste sur l'eau? Il ne pourra jamais répondre à la question dans la logique que nous connaissons entre-temps. Vous comprenez? Il dirait, par exemple, « Ah, c'est parce que le crayon est rouge, par exemple. » Ou « parce que le crayon est long. » Mais ce n'est jamais la question vraie, vous comprenez? Et ça, c'est intéressant. Je crois que les surréalistes ont été intéressés aussi dans ce stade prélogique de l'homme. C'est-à-dire avec toute l'admiration. William Blake, il disait par exemple, les deux grands éléments, comment je regarde le monde, c'est d'abord l'innocence, mais accompagnée de l'expérience. Donc, innocence et expérience, ce sont les deux grandes colonnes sur lesquelles il a construit toute son œuvre, William Blake. Mais c'est autre chose que travailler à travers une logique. Hein? Parce que l'artiste se trouve dans une situation ambiguë. Il connaît la logique, mais il veut s'en débarrasser aussi, en même temps. Autrement, il ne peut pas créer. Je crois, hein? Je crois que c'est ainsi que ça fonctionne, je crois, non?
Il est l'homme qui fait entrer l'art et la folie dans les maisons. Il est notre invité sur Musique 3, Yann Hout.
Oui.
Alors cette fois-ci, vous avez écouté.
Oui.
Et vous avez reconnu.
J'ai très bien reconnu Del Pueyo. Donc, il était professeur ici au Conservatoire de Bruxelles. Mais je l'ai connu parce qu'il était aussi souvent en vacances à Saint-Idesbald, où il y a tous les grands artistes comme Delvaux, Graar, Bursens, etc., Wolvens, tous les grands artistes de Belgique se rencontraient là. Et oui, bavardaient, jouaient de pétanque et tout ça. Et Del Pueyo m'a appris de jouer aussi le Montchel Sonate de Beethoven. C'est quand même quelque chose. Hein. C'est un héros, hein. Del Pueyo. Et comment il jouait aussi. Hein. C'est comme... Il ne pousse pas les notes jusqu'au fond. Il les caresse, vous comprenez. Et c'est formidable.
Yann Hout, rien de ce qui est ressorti du domaine de l'art ne vous semble étranger. Vous y connaissez autant en art visuel, en art plastique qu'en musique. D'où ça vous est venu, cette passion pour l'art?
Ah oui, ça... De mes parents, je crois. Hein. Dès le berceau, je n'ai vu que l'art autour de moi. Donc mon père avait les expressionnistes flamands, comme Permeke, Gustav Smet, Frits van den Bergen, Ted Kat, etc. Et il continuait à collectionner, après la guerre aussi, avec Karl Appel, Asger Jorn, Le Cobra. Et puis, plus tard, il achetait aussi Joseph Beuys, vous comprenez. Donc c'était de la nature aussi. Hein. Mais c'est toujours lié à l'expressionnisme chez mon père. Donc, il avait une grande connaissance de l'expressionnisme. Et ma mère, elle achetait aussi. Et souvent, quand il visitait l'atelier d'un artiste, mon père achetait une chose, et puis ma mère disait, moi, je préfère l'autre. Et alors, mon père achetait ceci, et ma mère achetait une autre chose. Et souvent, parce que ma mère n'y connaissait pas, c'est-à-dire dans le sens théorique, elle ne connaissait rien sur le sens théorique. Elle n'aurait jamais pu expliquer ce que ça veut dire l'expressionnisme, par exemple. Mais mon père connaissait et ma mère avait l'intuition. Et souvent, le choix de ma mère était meilleur que le choix de mon père. Ça, c'est très curieux parce que lui, il projetait sa connaissance, son savoir, quand il regardait l'œuvre. Et ma mère, non. Elle était libre. Mais elle aimait le lieu où elle se trouvait. À ce moment-là, elle regardait l'atelier, elle regardait les œuvres d'art, et elle faisait son choix.
C'est peut-être la force de la connaissance prélogique,
c'est
ça, non?
C'est ça, prélogique. La connaissance prélogique, oui, oui, voilà.
Alors on a dit, hein, cette exposition à Gail, c'était un retour aux sources, parce que cette maison qui abritait tant d'heures aujourd'hui, oui. C'est un centre d'art.
Ah oui, mais ça a été un long chemin aussi. Après la guerre, quand nous sommes venus à Gand, alors, cette maison n'était plus occupée d'un médecin. C'est-à-dire, il y a beaucoup de maisons égales, hein? Mais c'était des maisons de médecins. Donc, les médecins vivaient très proches de la clinique. Maintenant, les médecins ne veulent plus loger dans les maisons de l'État. Ils ont leur propre villa, les médecins aujourd'hui. Et aussi le plus loin possible des patients, vous comprenez. Donc ça, c'est un autre monde. C'est comme le chef de l'industrie. Hein? Il n'habite plus dans sa firme. Hein? Il habite quelque part, peut-être en Amérique il habite, ou à Qatar. Hein? On ne sait plus où il habite. Certainement pas proche de la compagnie. Hein?
Il faut préciser, Yann Hout, que votre père était psychiatre.
Psychiatre, oui.
Mais alors, j'ai lu psychiatre, mais il était aussi dentiste. Comment c'est possible,
ça? Oui, non, mais ça, c'est un changement de décor. C'est-à-dire que quand il était psychiatre, c'était encore une situation embryonale, au fond. Parce que la psychiatrie n'avait pas développé tellement. Vous comprenez, c'était beaucoup plus subjectif et personnel. Ce n'est qu'après que la neurologie s'est développée, que la psychiatrie a changé. Et donc, comme psychiatre, on faisait tout. On tirait les dents des patients, on opérait, quelquefois, quand c'était urgent. Donc, il faisait tout. Et son beau-frère il devrait être opéré et aller en Amérique pendant 4 ans. Il était malade et il avait 4 enfants. Il n'avait plus de salaire, vous comprenez. Donc mon père a dit, écoute, moi je viens et on sépare, 4 sur 7. Et nous étions avec 7 enfants, donc 4 enfants et 7 enfants. Et ils ont divisé l'argent qu'ils gagnaient pour les 2 familles. C'était encore une époque où les familles s'aidaient. Aujourd'hui, on ne fait plus ça non plus. Chacun va son chemin, vous comprenez. Donc, tout est devenu plus abstrait et moins émotionnel, quoi. Quand on gagne quelque chose, on perd quelque chose. C'est toujours comme ça. Ça, c'est la vie. Ça, on a appris entre-temps. Quand on a la progression, il y a toujours quelque chose qu'on perd.
La solidarité dans votre famille, elle va plus loin que cela, puisque c'est une tradition un peu dans cette ville de Gay depuis très longtemps, d'accueillir ceux qu'on appelle les fous, les patients psychiatriques, et vous avez accueilli en plus chez vous de ces patients.
Nous étions 7 enfants et 3 patients psychiatriques. Mais quelquefois, on changeait. Parce que, c'est-à-dire qu'un patient psychiatrique, quelquefois, il devient familière, très familière, et trop familière, alors il n'y a plus de distance non plus. Donc, alors on doit le mettre dans un autre lieu où il y a la compatibilité, quoi. Hein? Et c'est pour ça que je crois j'ai connu environ 6 ou 7 différents patients psychiatriques. Il y avait un, par exemple, qui avait la maladie Lilliput. Ça veut dire qu'il voyait des petits gens, des personnages jouer du football sur sa main, faire la guerre, faire l'amour et tout. Hein? Et le type, il racontait ça. Nous étions toujours auprès de lui parce qu'il avait des histoires formidables que nous ne pouvions jamais imaginer les choses qu'il racontait, vous comprenez. Et ça, nous étions en admiration pour ce type. Parce qu'il voyait des choses qui n'existaient pas, quoi, dans la logique.
Mais ça veut dire qu'en fond, très très jeune, vous avez été confronté à cette question de ce qui est normal, ce qui n'est pas, puis en fait...
Oui, et nous avons connu aussi un moment où on ne savait pas qui était le frère et qui n'était pas le frère, vous comprenez. Donc, c'était la famille. Donc, il mangeait avec nous, et il dormait dans la même maison. Il faisait partie de la famille. Ma mère considérait cela aussi comme la famille. Hein? Elle regardait les patients comme des enfants. Et c'est ça qui était formidable, ça fluctuait.
Et on sent d'ailleurs dans votre exposition, qui donc tient lieu dans 4 places, dans 4 lieux de cette ville de Gay, que vous avez un souci d'intégration.
Ah oui.
Hein? Les œuvres d'art brut côtoient des grands noms comme Klee, comme Magritte.
Oui, mêlées avec et juxtaposées, quoi. Avec les grandes œuvres de Picasso, mais Picasso était un collectionneur aussi de outsider kunst. Il avait dans sa collection, par exemple, Sonnenstern, qui est un très fameux dans l'histoire de l'outsider. Et il avait dans sa collection, vous imaginez. Donc ça, on oublie quelquefois que l'artiste avait une vue tout à fait particulière pour découvrir des choses que lui, il ne pouvait pas faire. Je me rappelle, par exemple, ce que Picasso avait dit quand il avait 90 ans. Il disait tout d'un coup, « Moi, je peux faire tout. » J'ai connu tout ce que j'ai voulu connaître. Et je peux le reproduire comme un vrai. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est dessiner comme un enfant, il disait. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça. Et il a aussi essayé, au fond, parce qu'il voulait être libre tout le temps. Il a toujours été challenged, de faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire, à travers la logique. Donc, il voulait aller à travers, oui. Et il voulait faire quelque chose pour montrer qu'il était libre.
Là, vous me parlez de liberté, de pensée prélogique, de surréalisme aussi. Alors, Jacques Charlier, c'est aussi un irrégulier, un subversif à qui vous consacrez une salle entière dans votre exposition. Et je vous propose de l'écouter parce qu'il explique ce que c'est qu'un pas d'outsider.
Je préfère être pris pour un artiste réalisateur qu'un artiste peintre ou je sais pas quoi. Là. Il y a des appellations différentes. Hein.
Avec des supports multiples.
Oui, surtout. Je change constamment de support. Pour moi, l'idée doit vraiment coller avec le média.
Et votre travail, finalement, sert à nourrir la critique sur l'art.
Ça sert à nourrir la critique sur l'art. Parfois, c'est de l'art, parfois, ça n'en est pas. On ne sait pas très bien cloisonner et définir l'activité. On peut dire que c'est une activité à propos de l'art, ça c'est sûr.
Dans les années 60, vous aviez fait vraiment des pieds de nez à la peinture moderne. Vous aviez peint d'une manière parfois même académique. Vous inventiez des noms de peintres totalement imaginaires. La subversion était d'autant plus forte que c'était de bons tableaux. Finalement, vous utilisez les armes, les techniques de la peinture traditionnelle.
Ah oui, évidemment, si j'établis une critique ou une approche humoristique d'un style de peinture, elle doit pouvoir rivaliser avec l'original. Autrement, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et c'est d'autant plus provocant pour celui, évidemment, qui croit trop à l'art et qui s'agenouille devant.
Alors la critique aujourd'hui à l'égard du monde de l'art prend des formes différentes ?
Elle prend effectivement des formes différentes. Elle change parce que l'avant-gardisme est devenu de plus en plus académique. Le monde de l'art n'est plus comme avant. Il est beaucoup plus vaste. Il est beaucoup plus imprégné des médias. Donc, il est évident que les formules à adopter vont prendre d'autres directions. C'est pour ça que j'aime assez bien que mes catalogues d'exposition soient constitués avec la même saveur que les toutes boîtes et les revues bon marché.
Alors, on connaît votre humour intelligent, on connaît votre insolence, Jacques Charlier. C'est un humour made in Belgium dans la tradition des Magritte, des Brotars et d'autres irréguliers ou irrévérencieux du langage plastique.
C'est très curieux parce qu'on tombe souvent dans des poncifs qui ont déjà été utilisés et c'est bien malgré nous. Et je crois que c'est un problème non seulement par rapport à la langue, mais c'est aussi par rapport au bilinguisme, c'est aussi par rapport à ces frontières indéfinissables et cette Belgique totalement imaginaire mais qui perdure pour les artistes. Et en même temps, c'est une sorte de réflexion sur le langage. Le langage est toujours là en grande partie pour, d'une certaine manière, déconstruire avec humour les choses de l'art et les choses de la réalité.
Critiquer, dénoncer, et on pourrait dire aussi que, bon, d'une certaine manière, on pourrait être un peu critique, on pourrait dire, oui, mais finalement, Jacques Charlier fait ses choux gras également de cette attitude, parce que vous êtes un artiste reconnu sur la place. Alors, est-ce que vous ne frisez pas parfois la schizo ?
Pas du tout. Effectivement, c'est souvent critique, c'est souvent ironique, etc. Ce sont souvent des choses qui sont teintées d'humour, mais elles ne sont pas tournées contre. Ce n'est pas une sorte d'art qui se grefferait par rapport à l'art dit conventionnel et qui se nourrirait de ses défauts. C'est quelque chose qui se situe un petit peu, un pas sur le côté, un peu outside, et qui essaye d'ériger une sorte de commentaire poétique par rapport à la chose artistique.
Il y a quelques années, vous invoquiez Sainte Rita, patronne des causes désespérées et des artistes, puisque l'art est une cause désespérée d'une certaine manière. Absolument. Sous quel patronage placeriez-vous cette exposition ?
Toujours Sainte Rita, je crois. Elle est là en bonne place. On l'instigue, on lui demande de prier pour l'art. L'art en a besoin.
Un micro-portrait par Pascal Goffaud de Jacques Charlier, qui est l'un des 240 artistes que vous avez choisi de présenter à
Calais. Ah oui, oui, toujours. J'aime beaucoup tout ce qu'il fait, quoi. C'est devenu un ami, quoi. Un ami depuis les années 70. J'ai travaillé beaucoup avec lui aussi, à Chambre d'Amis, par exemple. Mais ici, je savais qu'il pourrait faire quelque chose de très bien, réfléchissant sur le mythe, par exemple. Parce que le mythe fait partie de l'exposition, les mythes. Donc l'homme chasseur, l'homme qui construit une famille, qui crée des structures de la société, etc., qui croit dans les dieux, hein, et, etc. Donc, et lui, il peut réfléchir là-dessus. Et il a fait, par exemple, le lion de Waterloo, Manneke Pis de Bruxelles, James Ensor, le chapeau de Magritte, des réflexions, des photos de Marcel Brotars, etc., etc.
Et même Michel Dardenne à la de Warhol.
Knopf aussi. Vous voyez, puis la Sainte Rita, la patronne des misérables. Hein? Oui. Donc il faut prier parce que les artistes sont les misérables. Donc il faut prier pour Rita pour aider les artistes. Vous comprenez, c'est formidable.
Vous aussi, vous pensez que l'art a besoin des prières de Saint Rita?
Non, moi pas, non. Mais lui, il fait une allusion là-dessus. Et il fait un commentaire, c'est ça. Un commentaire poétique sur les propos de l'art et sur l'activité de l'artiste. Hein, parce que il a dit aussi, c'est impossible de définir exactement ce que ça veut dire. Donc, ça, c'est intéressant, je trouve. Donc, nous sommes toujours à la recherche. Ce que veut dire l'art. Brotard, cela l'a très bien vu aussi. Lui, il a dit, il n'y a pas d'évidence. Hein? Parce que, par exemple, la mer est la mer. C'est peut-être la mer Atlantique ou c'est peut-être la mer. Vous comprenez? Donc, le moule et la moule, c'est même mot, mais avec une signification totalement autre. Hein? C'est quand même quelque chose de très intéressant de savoir que l'artiste aussi, il ne veut pas se définir exactement. Et certainement pas Charlier. Il va encore plus loin, je trouve, dans ses propos. Hein? Pour montrer que l'évidence n'est pas certaine. La logique n'est pas absolue.
Un extrait, le troisième mouvement, extrait du premier quatuor à cordes d'Arnold Schoenberg, choix musical de notre invité Yann Hout.
D'abord, on est un peu désorienté, parce que quelquefois, on fait le rapport entre la musique, c'est la musique. Vous comprenez? Et on dit, Schoenberg, on entend, d'abord on entend une certaine façon de maîtriser, maîtriser la musique, comme Brahms le fait très bien, je trouve. Il maîtrise le romantisme. Et lui, il ajoute encore une chose plus difficile, quoi. Mais il est de l'époque du XXe siècle. Donc le XXe siècle, pendant l'expressionnisme, pendant la guerre, la première guerre, la deuxième guerre, et tout ça, et à travers ces deux guerres, on doit situer son travail. Hein, parce que l'homme, l'individu, se trouve dans l'aliénation, quoi. Il se trouve aliéné de la société. Et c'est ça, les premiers mouvements, quoi, dans ce geste de Schoenberg.
Il était très en lien avec Kandinsky, on a gardé correspondance.
Oui, aussi, oui.
Votre passion pour l'art contemporain vous a amené notamment à cette exposition qui réunit, on l'a dit, plus de 240 œuvres, où des œuvres d'art brut côtoient des œuvres très célèbres. Alors comment ça se monte, une exposition de cette envergure, dans une petite ville comme celle de Gay?
D'abord, il y a l'expérience. Il faut connaître les gens. On sait très bien que ça sera difficile de demander au musée de prêter une œuvre pour Gayle, parce que Gayle n'a pas d'institution muséale. Donc il faut l'humidité, vous comprenez, la question de l'humidité, de climatisation, de sécurité, les caméras et tout ça. Donc ça n'était pas, vous comprenez. Et on devait quand même garantir cette sécurité. Donc on a dû changer beaucoup à Gayle, dans la maison communale, au centre de la ville. C'était la maison communale il y a longtemps. Et maintenant, c'est devenu une salle d'exposition. Donc, on a dû construire les nouvelles
infrastructures.
Pour garantir les prêteurs.
En fait,
et puis, il faut connaître les œuvres aussi. Qu'est-ce qu'on veut? Par exemple, je voulais absolument un Odilon Redon. Parce que Odilon Redon, c'est un des premiers artistes au XIXe siècle qui est intéressé dans les hallucinations. Et en plus, il a combiné cet intérêt avec sa connaissance de Darwin. Et c'est pour ça que les premières choses qu'il a fait, c'était des têtes avec un œil, comme une cellule. Et de là, nous avons créé l'homme. Donc, il a fait ça. Donc, le rêve, les hallucinations. Le rêve pour comment on peut devenir, vous comprenez? L'évolution de l'homme. Et c'est ça qui m'intéressait. Donc, j'ai trouvé ce Redon dans une collection privée. Puis, j'avais besoin d'un Louis Bourgeois. J'avais besoin de Dubuffet aussi. Mais ça, c'était beaucoup plus difficile. Pourquoi? Moi, j'ai même vu, ça, je ne veux pas prêter. Parce que c'est une œuvre trop délicate. Donc, je ne pouvais pas. Et je ne voulais pas mettre une glace devant, non plus. Ça aurait été avec une glace devant, mais avec une glace devant Dubuffet, qui était l'art brut. Alors, c'est le contraire, vous comprenez? C'est une contradiction. Donc, je n'ai pas voulu faire ça, mais j'ai le même collectionneur. J'ai choisi une œuvre de Louis Bourgeois. Avec trois parties. Une partie centrale, c'est comme une chaîne, mais une chaîne en textile. Pas une chaîne en fer. Hein. Donc, suggérant la chaîne. Et à gauche et à droite. À droite, il y a les poitrines d'une femme. Et à gauche, ce sont les couilles de l'homme. Vous comprenez? Donc le conflit entre l'homme, la dualité entre l'homme et la femme. Ce conflit, hein, comment on réjoue? Par une chaîne aussi, parce que c'est la bague du mariage. Vous comprenez? C'est aussi une chaîne, quoi. Hein? On se lie par la bague. Donc elle fait beaucoup de bagues qui sont liées à tous les éléments. Voilà, c'est ça. Formidable, une œuvre de Louis Bourgeois qui est phénoménale. La dualité. Donc la dualité dans l'exposition aussi, hein, entre outsider et insider.
Il y a même des dualités qui sont inside-inside. Je pense par exemple au travail photographique d'une liégeoise qui s'appelle Sophie Langor.
Ah, oh, formidable. La dualité et en même temps, ça paraît égal. Donc ce sont des photos, des statues du XIXe siècle dans l'église. Sainte Rita, par exemple, le visage. Et puis elle a trouvé, dans la mode actuelle, aussi des photos.
Des mythes, de nouveau, on y revient, hein, Marion voilà. Cotillard notamment, ou Nathalie Portman.
Formidable. C'est incroyable. Comment elle a trouvé ça? Ça m'a frappé tout de suite quand j'ai vu la première exposition de Langour à Liège, par exemple. Et là, j'ai trouvé. Donc, j'ai dit, tout de suite, elle doit participer. Et je l'ai mis dans le musée de Guil, le musée psychiatrique, là, où les nonnes augustines ont soigné les patients psychiatriques, mais aussi à l'église Saint-Nymphna. Et là, je l'ai mis sur les parois de l'église, les deux têtes. Donc ça donne une...
C'est une mise en abîme en plus, parce qu'on voit une représentation, l'identité d'une photo de statue d'une vierge qui se trouve elle-même dans une église, oui. Un peu à l'infini.
Oui, oui, oui. Mais souvent, j'ai remarqué, quand je regarde, par exemple, une Madonna ou un ange peint par Jan van Eyck, quand on regarde bien, on peut trouver des filles aujourd'hui qui se ressemblent à la Madonna, vous comprenez? Il n'y a pas beaucoup de différence quand on regarde bien. Mais on ne pense pas toujours à ça. D'abord, quand on regarde une figure chez Jan van Eyck, on pense que c'est une Madonna. Donc on ne voit pas la fille qui a posé pour lui, pour pouvoir faire la Madonna, vous comprenez?
Yann Houd, on a l'impression que dans votre exposition, ce qui vous a motivé, c'était plus de montrer la ressemblance entre les choses que l'on considère comme différentes d'habitude.
Ça, c'est formidable. Ça, c'est aussi outsider, insider. Et puis, aujourd'hui et hier. C'est quand même différent. Et dans cette exposition, c'est un peu confus. Il y a une confusion. Et c'est ça que j'ai voulu faire aussi. J'ai voulu démolir un peu la logique des gens en regardant l'exposition. Voilà.
Alors on peut peut-être parler du logo de cette exposition qui est absolument splendide.
Ah, c'est une
horloge
qui n'a qu'une seule aiguille. Oui, oui. Une seule aiguille.
Et alors qu'est-ce que ça symbolise?
C'est-à-dire que dans tout ce que nous avons autour de nous, on peut toujours remarquer une faute ou quelque chose qui manque. Là, c'est la deuxième aiguille qui manque. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas deux fois par jour juste. Vous comprenez? Et c'est même plus juste, les deux fois que c'est juste, qu'une horloge que nous avons dans la main.
Elle a raison, deux fois par
parce
jour, cette horloge?
C'est plus juste parce que le Greenwich, l'heure de Greenwich, elle est juste deux fois par jour. Vous comprenez? Donc, et c'est ça, le côté ambigu de l'humanité, quoi. L'humanité consiste seulement par les paradoxes et les contradictions. Et c'est ça que nous voulons trouver à travers l'art. Où se trouve exactement cette contradiction, dans l'homme, dans chaque homme. Chaque homme manque quelque chose, je crois. Les catégories, borderline, autisme, etc., etc., ça devient toujours plus grand, ce livre. Maintenant, c'est un livre de 20 cm, et dans 100 ans, ça sera un livre de 50 cm. Vous comprenez? Toujours des catégories.
Yann Houd, on vous écouterait pendant des heures nous parler de l'art, de ses ambiguïtés, de ses limites, entre une couverture peinte, un totem, un délire obsessionnel. On a l'impression que tout ça, c'est du vivant et donc c'est ce que dit l'art. C'est presque un cliché, Yann Houd. On vous appelle le pape de l'art. Alors comment assume-t-on un titre de gloire comme celui-là?
Non, mais je ne crois pas que c'est un titre de gloire, je crois. Non, c'est une... c'est plutôt... Comment dirais-je? C'est aussi bien ironique que vrai, quoi. Vous comprenez? C'est ironique et vrai.
En même temps, vous n'avez pas de chauffeur parce que vous êtes venu de Gand avec votre propre voiture ce matin.
Oui, je préfère venir tout seul. J'ai plus de confiance quand je roule moi-même. Non. Je veux dire seulement, c'est un peu par le fait que je crois que j'ai en effet beaucoup fait pour que les gens comprennent et sont conscients de l'importance de s'occuper avec l'actualité dans laquelle ils vivent. Ça, j'ai réalisé, je crois. Qu'ils doivent s'occuper plus de l'actualité. Et pas toujours, quand on parle de l'art, retourner vers le XVIIe siècle, par exemple. Vers ce qu'ils pensent être la photographie, vous comprenez? Non, l'art, c'est quelque chose de plus inutile. Au fond, c'est un objet inutile, on ne peut rien faire avec, ça ne fonctionne pas, seulement au point de vue économique peut-être, quand on le vend. Mais en soi, ça ne fonctionne pas. Tu vois, et ça c'est intéressant, parce que l'art est toujours là. It's nice to look at. That's all. That's the main importance of an artwork. It's nice to look at. Mais il faut bien regarder, évidemment. Il faut être ouvert aussi. Quand on n'est pas ouvert devant l'évolution de l'art, alors ça devient difficile, je trouve. Et je veux que on va perforer cette difficulté. Et ça, j'ai voulu faire. Perforer la difficulté de correspondre avec ce qu'on n'aime pas en première vue.
Eh bien, vous l'avez fait très bien. En plus, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et merci pour toutes ces folies que vous nous offrez, toutes ces folies inutiles. Est-ce que c'est, comme on l'a dit, votre dernière expo? Vous pensez vraiment ça?
Non, je crois. Non. Parce que l'année prochaine, je voulais faire une grande exposition sur la mer. Mais c'est d'un point de vue plus histoire de l'art. À partir de Courbet jusqu'à maintenant, dans différents lieux, à Ostende.
Eh bien, rendez-vous l'année prochaine, j'espère que vous viendrez nous en parler. En tout cas, nous vous accueillerons avec grand plaisir. Nous allons nous séparer avec un dernier choix musical, vous êtes d'accord?
Oui.
Qu'est-ce qui vous ferait plaisir?
J'aime beaucoup à vos pertes. Lui, c'est en même temps l'apocalypse de la musique et en même temps une structure... logique aussi en même temps.
Oui. Ça marche. Avoir perte est juste une toute, oui. C'est l'ultime question. Est-ce que vous avez une maxime, Yann Hout, qui accompagne vos journées?
Une maxime? Eh bien, soyez alerte à tout ce qui change.
Un extrait du Credo d'Arvo Pärt, choix musical de Yann.